Yes, salut tous les massifs.
Merci de nous retrouver comme presque tous les mardis sur Radio Galère de 14h à 15h pour cette émission sur la situation internationale. Et je commence par vous présenter nos excuses puisque la semaine dernière, en raison d'événements familiaux inattendus, nous avons été obligés d'annuler l'émission au dernier moment. Mais comme il s'est passé énormément de choses depuis 15 jours, on aura l'occasion, pendant l'émission qu'on va avoir aujourd'hui, de revenir sur un certain nombre de points clés, car cette quinzaine a été une quinzaine décisive, en ce sens qu'elle a marqué un très très grand tournant dans l'ensemble des relations internationales, marqué virage qui a des suites quotidiennes, on va le voir par exemple en parlant de la Syrie aujourd'hui. Alors pourquoi ça a des incidences quotidiennes? Parce que hier, à la suite de ce que vous allez entendre, de ce qui se passe en Syrie, le Conseil de sécurité de l'ONU a été saisi. Et il a été saisi conjointement par deux pays, les États-Unis et la Russie. Et ça, c'est un événement diplomatique en soi, alors que les autres ont laissé faire. Les autres, la France, la Grande-Bretagne et tous les autres et tout. Donc ça, c'est un événement, mais qui prend sa source dans des événements qui sont passés donc au début de la semaine précédente, sur lesquels je reviendrai. Mais ce qui se passe donc en Syrie est d'une extrême gravité, puisqu'on a affaire à un début de tentative de génocide, en ciblant, pour commencer, certains opposants, en mettant tous les gens qui ne sont pas d'accord avec l'équipe de terroristes égorgeurs qui sont au pouvoir. Tous les opposants à cette politique là et à cette équipe-là sont en danger de mort en Syrie.
Ouais.
Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et ce qui va donner lieu donc à l'organisation, qui est sur Marseille, car la communauté syrienne est importante à Marseille, d'une manifestation que j'annonce, qui aura lieu donc samedi à 14h devant la préfecture, pour exiger, le mot est nécessaire, c'est bien ça, exiger du gouvernement français qu'il intervienne pour faire arrêter le massacre. Parce que pour l'instant, même s'il n'a pas approuvé le massacre, heureusement, mais son silence est complice. Et donc le but de cette manifestation dit arrêter la complicité du gouvernement français. Voilà. Donc je donne pour ça la parole à Habib qui est là, qui prend beaucoup de temps pour organiser cette manifestation qui est autorisée par la préfecture de police et qui aura lieu, donc, je le rappelle, samedi à 14h devant la préfecture des Bouches-du-Rhône à Marseille. Voilà, à toi Habib.
D'ailleurs, il faut dire aussi, il y a 15 jours,
oui.
Il y a plus de 15 jours, nous avons envoyé à M. Macron une lettre recommandée avec accusé réception.
Exact.
On a eu la réception, mais on n'a rien reçu de quoi que ce soit sur cet événement. Et là, maintenant, l'événement, elle s'empire de plus en plus.
Ouais.
Alors, au départ, donc, la communauté qui se trouve ici, à Marseille, nous déplorons vraiment ce qui est arrivé. C'est une épuration ethnique actuellement qui se prépare en Syrie. Et alors,
qui est en cours, même. Ouais, plus qu'en préparation, elle est en cours.
Exactement. Et j'ai dit, j'ai fait une prière pour ces gens-là, tous qui sont morts. Et il y a énormément des chrétiens, des alaouites. Moi, je suis pour toutes les minorités. Donc toutes les minorités, elles étaient vraiment touchées. Et tout particulièrement les alaouites, bien sûr. Que Dieu ait leur âme, on priera certainement pour eux. Bon, en ce qui concerne le travail que nous avons effectué, M. Bernard Genet l'a bien dit, nous préparons une manifestation à Marseille, à la demande d'ailleurs de toute la communauté syrienne.
Ouais. Qui est nombreuse
à Marseille. Qui est nombreuse à Marseille. Et j'espère, je souhaite qu'on sera très très nombreux devant la préfecture. C'est une manifestation, elle est statique, sur place. Il n'y a pas de marche. Voilà. J'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas de drapeaux, parce que bon, ce n'est pas notre problème. Par contre, des banderoles et des photos.
Voilà.
Et puis il y aura un micro. pour que les gens puissent s'exprimer sur cette situation. Voilà. Alors, ce que vraiment qui me fait mal au cœur, c'est que je pense à ces anciens qui sont venus en France en 42, 44 et en 46 pour défendre la patrie, la France, pour défendre à l'appel de De Gaulle. Hein,
bien sûr.
C'est ça, à l'appel de De Gaulle. Et ces gens-là, ils doivent bouger dans leur tombe. Parce que bon, ils ont voulu défendre la France, mais malheureusement, la France n'a rien défendu, ni au Liban, ni en Syrie actuellement. Donc il n'y a rien qui se passe. On essaye modérément de dire que M. Jolani, bien sûr, c'est plus le même. C'est vrai.
Oui, il a changé d'habit.
Oui, il a changé d'habit, voilà. Alors que officiellement, c'est Jolani qui a donné l'ordre à ces criminels. On ne peut pas, je ne sais pas si c'est des criminels, des sauvages, même pas, les bêtes ne font pas ce qu'ils font. Sincèrement, même les animaux, ils se battent le plus fort, il est là et l'autre, il s'en va. Tandis que là, on les tue, on les massacre. J'ai vu un 4x4 qui est passé sur leur corps 4 fois. Enfin, beaucoup de choses. Bon, j'ai écrit donc au ministre des Affaires étrangères en France pour qu'ils interviennent au moins d'arrêter le massacre. Les massacres des minorités, quels qu'ils soient. Alors, bon, je voudrais vous la lire, cette lettre.
Bien sûr.
Donc, voilà. La communauté syrienne ainsi que notre association sommes profondément préoccupés par les événements récents en Syrie depuis le renversement du régime. Nous constatons avec inquiétude une recrudescence des violences ciblant certaines minorités, notamment la communauté alaouite et chrétienne, ainsi qu'une montée de l'extrémisme mettant en péril les principes fondamentaux des droits humains. Alors que nous, on est dans un pays droit de l'homme, soi-disant.
Oui, ben oui.
Voilà. Face à cette situation alarmante, nous souhaitons attirer votre attention sur l'urgence d'une action diplomatique forte. Et il faut que la France retrouve sa place au Moyen-Orient. Ça me fait, j'ai les cheveux qui se redressent quand je vois la France dans cette situation, abandonnant ses amis. Il n'y a pas que la Syrie, le Moyen-Orient, mais il y a même l'Afrique.
Bien sûr, bien sûr.
Dans cette optique, notre association organise donc une manifestation pour les droits humains et contre l'extrémisme, dont la date sera fixée bientôt, parce que bon, j'ai été à la préfecture, j'ai posé la demande, la police a été très très aimable avec moi, ils m'ont aidé, c'est vrai. Et je remercie M. Mathieu Château. Je ne sais pas qui c'est, ce mec, mais ouais, c'est lui qui m'a...
C'est un officier de police.
Voilà. Alors, donc, j'ai prévu le samedi 15 mars à 14h.
Voilà, la fin de cette semaine.
C'est une manifestation statique. Voilà. Nous serions honorés de pouvoir échanger avec vous, vos représentants, afin de discuter des actions possibles pour soutenir la paix et la justice en Syrie. Nous vous remercions. Je laisse la parole à mon ami et même mon frère Bernard.
Merci. Merci, Abim. Voilà. Alors, cette cruauté et cette haine des Alaouites venant donc des terroristes, il faut l'expliquer. C'est une de ces raisons qu'il faut resituer. C'est-à-dire que Hafez el-Assad et Bachar el-Assad étaient de cette confession alaouite qui est un courant de l'islam connu depuis très très longtemps.
Et en plus de ça, il n'est pas pratiquant.
Alors, oui, voilà.
Bon, mais, disons, c'est un laïc.
Voilà. Oui, mais d'origine alaouite.
Ouais,
et donc, dans la façon de travailler des terroristes, il est passé par ce moule-là, il est alaouite et puis voilà. Alors, je pense que même dans les alaouites qui sont en train d'égorger, il y en a qui ne sont pas pratiquants non plus.
Non, pas
mais
du tout.
On leur dit, là, c'est un village alaouite. 8, ils y vont et ils passent tout le monde par les arbres.
Voilà, exactement. Voilà.
Oui, et après, on voit le bulldozer qui pousse les corps dans un charnier. Bon, c'est épouvantable. Mais...
D'ailleurs, Bernard, il faut remercier le... l'aérodrome d'Ehmeymine, là, comment
alors,
il s'appelle.
Je vais le préciser. Oui, vais le préciser. Ouais. Parce qu'effectivement, alors, quand on est dans cette zone-là de la Syrie, donc c'est surtout la zone du bord de mer, hein, la façade entre les grandes villes de Tartous et Latakié, avec donc des collines où sont installés les villages qui sont victimes de ce début de génocide, et puis il y en aura peut-être d'autres après, hein, c'est ça qui se prépare, parce que c'est la façon de fonctionner de ces gens-là. Et il se trouve que quand ceux qui sont aperçus de ce qui se passait dans le village d'à côté sont se dit, dans 5 minutes, c'est notre tour. Ils ont fui, et le seul endroit où ils ont pu sauver leur vie,
exact,
c'est la base aérienne russe qui est sur la côte.
Qui a ouvert les portes.
Qui a ouvert les portes à côté de Latakié, et qui en a sauvé plusieurs milliers. C'est-à-dire que ce n'est plus un terrain d'aviation. C'est un camp de réfugiés,
camp de
la
réfugiés,
base russe.
D'ailleurs, voilà. Ben, ils leur ont fourni des tentes.
Tout ce qu'il faut.
Je suis au courant.
Coup de chapeau à la Russie. La Russie a sauvé des milliers de personnes hier et avant-hier. C'est ça qu'il faut le dire
et
aussi.
Et tout particulièrement, c'était des enfants et des femmes
ben
et
voilà.
Des vieillards, alors que les hommes sont partis à la montagne.
Voilà, alors il y en a qui sont peut-être pour se défendre et pour organiser la résistance. Il y aura une résistance pour ceux qui survivront. Mais combien vont survivre ? C'est ça le jeu.
Ça,
et c'est pour ça que le fait que la France n'ait pas manifesté grand-chose, voire rien du tout par rapport à ça, c'est la cible de cette manifestation de samedi. La France doit se positionner. Et elle doit d'autant plus que hier, il a fallu que ce soit l'alliance renouvelée et nouvelle entre les États-Unis et la Syrie qui organise en urgence, hier matin, une séance spéciale à huis clos du Conseil de sécurité. Alors, à huis clos, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui s'y est dit, mais ça veut dire que l'ONU est consciente de ce qui s'y passe et doit donner des suites.
Ils ont
car
fait une réunion à huis clos, j'ai entendu.
Oui, c'est ça. Donc l'ONU doit donner des suites. C'est-à-dire qu'en ayant... Alors je pense que quand on est secrétaire général de l'ONU et qu'on a la Russie et les États-Unis qui demandent une réunion spéciale et qui demandent que l'ONU fasse quelque chose, je pense qu'on ne peut pas ne pas faire quelque chose. Donc on n'a pas de nouvelles aujourd'hui au moment où on parle de ce qui se passera, mais nécessairement l'ONU est mobilisée. Doit l'être, évidemment. Comme elle doit l'être d'ailleurs sur ce qui se passe à Gaza, on en parlera tout à l'heure. Mais donc on est dans une situation internationale très particulière où effectivement ce sont deux pays qu'on n'attendait pas côte à côte pour défendre une même cause qui sont là pour dire il faut faire quelque chose par rapport à ce génocide qui est commencé. Alors ça c'est une situation tout à fait nouvelle. Tout à fait nouvelle puisque le génocide à Gaza... C'est pas la peine que j'insiste là-dessus. Les États-Unis se sont pas beaucoup mobilisés contre le génocide à Gaza. Même pire, ils l'ont favorisé, ils l'ont alimenté par leur argent, par leur matériel militaire, par leur renseignement et tout. Bon. Donc c'est tout à fait clair qu'il s'est passé là quelque chose de tout à fait important. Alors qu'est-ce que c'est qui s'est passé d'important ? Alors ça m'amène à revenir à l'ONU encore, puisque c'est quand même là qu'on peut mesurer les rapports de force internationaux, à la séance du lundi 24 février, donc il y a 15 jours et un jour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Il se passe deux choses. D'une part, une Assemblée générale. Alors, vous savez, les limites et l'intérêt de l'Assemblée générale. L'intérêt, c'est que tous les États sont là, présents, une espèce de forum démocratique des nations du monde, mais que les positions, donc ça s'appelle les résolutions, les textes qui sont votés par l'Assemblée générale n'ont pas force de loi, et donc ça reste des textes voilà, un peu en l'air, disons. Je rappelle par exemple que ça fait 30 ans maintenant que tous les ans l'Assemblée générale de l'ONU demande la levée du blocus de Cuba. Il ne s'est jamais rien passé. Bon, ça c'est tout à fait clair. Bon. Alors, il s'est passé dans cette séance, donc la première séance de début de la journée, se passe à l'Assemblée générale. Et arrive devant l'Assemblée générale deux motions. Deux motions par rapport à la situation, alors non pas en Syrie, mais en Ukraine. Ces deux motions viennent d'un côté des Européens, la France, la Grande-Bretagne, deux membres du Conseil de sécurité, et de leurs amis, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et dans cette première motion par rapport à l'Ukraine, il y a quelques phrases qui disent que la Russie est coupable de tout. C'est elle qui a tout orchestré, c'est elle qui tue, etc. Donc la Russie est mise devant, voilà, est mise responsable. Or, il se trouve que ce même jour, les États-Unis, à l'Assemblée générale, déposent une motion pour dire qu'il faut arrêter le massacre en Ukraine, mais ne pointe pas du doigt un responsable. Il refuse de dire « c'est la faute à la Russie ». Et ça, c'est un tournant majeur dans l'histoire des relations diplomatiques, puisque jusqu'à la veille, jusqu'au 23 février 2025, les États-Unis ont dit le contraire. Alors, en particulier, c'était vrai sous Biden. On attendait Trump là-dessus, et en fait, manifestement, l'administration de Trump a changé de position. Et on en mesure aujourd'hui les conséquences. Ouais. Bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que la motion numéro 1, la motion, je vais l'appeler anti-russe pour faire simple, mais vous avez bien compris de quoi il s'agit, la motion qui met en cause, qui accuse la Syrie, est adoptée par l'Assemblée générale à une majorité courte, puisqu'il y a 90 voix sur les 180. Je ne sais même pas s'il y a la majorité, mais il y a une majorité qui la vote, beaucoup d'abstentions, la France et la Grande-Bretagne en particulier, et ça s'arrête là. Bon. Et puis, les États-Unis, par rapport à ça, retirent leur texte. Ils disent, puisque ça a été voté, bon, on arrête. Mais, dans la même journée, le Conseil de sécurité se réunit. Et qu'est-ce qui se passe au Conseil de sécurité ? Il se passe ce qui est un événement diplomatique majeur, c'est-à-dire que les États-Unis et la Russie présentent une motion disant qu'il faut arrêter la guerre, il faut arrêter le carnage, etc. Il faut arrêter cette guerre. D'accord, tous les deux. Et que du coup, parce qu'ils sont courageux, mais pas plus courageux, la France et la Grande-Bretagne se taisent. Alors, ils ont été contents de leur succès diplomatique le matin devant l'Assemblée générale, et puis au Conseil de sécurité, quand ils voient, et ils sont surpris. Alors, ils devaient être un peu surpris déjà le matin, puisqu'ils avaient vu les États-Unis présenter une motion, un projet de résolution qui ne mettait pas la Russie en accusation. Mais là, au Conseil de sécurité, ils ont la confirmation qu'il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui face à une alliance diplomatique, pas plus que ça, à une alliance diplomatique entre la Russie et les États-Unis. Ça va engendrer chez eux, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les réunions européennes qui se sont tenues depuis, le lendemain, le surlendemain, ça n'a pas arrêté, avec Mme von der Leyen, Macron, le nouveau chancelier allemand, une panique totale. Une panique totale, c'est ça qu'il faut mesurer. C'est-à-dire que depuis des décennies, depuis quasiment 1945, la France, l'Allemagne, les pays de l'Europe, de l'Union européenne d'abord, puis même si elle s'est agrandie, disaient « on suit toujours la position des États-Unis ». On n'a jamais vu au Conseil de sécurité la France et la Grande-Bretagne s'opposer aux États-Unis. Donc nous étions les vassaux, on était sur cette ligne-là, et à partir du moment... Alors imaginez dans la tête de nos dirigeants actuels, bon, qui ne sont pas très très formés en histoire, qui ne sont pas très très calés en diplomatie, c'est le moins qu'on puisse dire, imaginez le bouleversement, c'est-à-dire ils sont en pleine panique. Ça les amène à dire n'importe quoi. Alors le plus gros n'importe quoi, et j'insiste là-dessus parce que ça concerne tous les Français vivants aujourd'hui, c'est de dire, ah ben nous, puisque Trump ne veut plus faire la guerre à la Russie, en gros c'est ça que ça veut dire, on va le faire à sa place. Alors là je dis, mais au fou, arrêtez-les, au fou. Alors il faut, alors heureusement, enfin malheureusement plutôt, ça n'a pas commencé encore en France, mais il y a des pays d'Europe où ça commence à se traduire dans la rue. Je pense à l'Italie en particulier, où ça commence. Il y a des manifestations maintenant le week-end pour dire on ne veut pas de ça. Alors on ne veut pas de ça d'abord parce qu'on est contre, on est pour la paix, et puis on ne veut pas de ça parce qu'on n'a pas que des cacahuètes dans le cerveau, c'est-à-dire on regarde l'état des forces militaires et l'Europe n'a pas les moyens ni financiers ni militaires de s'attaquer à la Russie. Bon, donc il faut que les citoyens français, malheureusement ça démarre lentement, j'insiste beaucoup là-dessus, se rendent compte que les budgets d'austérité qu'on nous fait avaler les uns derrière les autres, et tout, l'appel à des financements de guerre sont des folies pures dont tous les citoyens pâtiront pour leurs besoins élémentaires de logement, de santé...
Pomper sur le livret A.
Oui, ben, tout sera bon.
Ouais. En tant que Français, quels sont les griefs que nous avons contre la Russie ?
Ah ben, c'est, en tant que parce Français, que, hein, pour eux, c'est la Russie qui a fait la guerre à l'Ukraine. Donc voilà, c'est tout. Ah. Et c'est la Russie. Voilà. Donc il y a. Ah ouais. Le récit est clair, mais je vais. Non, le récit est parfaitement clair, enfin, cohérent dans leur tête. Dans la mesure, comme le disait la motion de l'Assemblée générale, le projet de résolution européen, c'est la Russie qui est en faute. Donc on s'en prend à la Russie. Simplement, le problème, c'est que les États-Unis ne s'en prennent plus à la Russie. Donc on va dire, qu'est-ce que c'est que l'OTAN ? Qu'est-ce que c'est que l'OTAN et ses forces et sa puissance militaire quand les États-Unis n'y sont pas ? Eh bien, moi, je disais tout simplement, c'est rien du tout. C'est rien du tout l'OTAN sans les États-Unis, puisque de toute façon, les décisions s'y prennent à l'unanimité. Et si jamais il y avait une réunion de l'OTAN demandée par la France et la Grande-Bretagne pour intensifier la guerre et rentrer vraiment en guerre toutes les troupes de tous les pays d'Europe de l'OTAN contre la Russie, les États-Unis, évidemment, diraient non. Et donc, à ce moment-là, les Européens ne pourraient rien faire, ils n'en ont pas la capacité. Ils n'en ont pas la capacité, il n'y a pas l'argent pour. Ils sont face tous à
ils
des budgets...
Ils ont parlé de 800 milliards.
Oui, oui, mais tous les chiffres sont possibles. Voilà. Ouais. Hein, il faut 800 milliards pour... Alors, en plus, non, on est dans la folie totale. On veut dire, on va faire une industrie d'armement. Alors, notre industrie d'armement, bon, on sait ici et là, les Allemands font des chars de bonne qualité. Nous, on a un bon avion qui est le Rafale. On a quelques bons bateaux modernes, etc. Bon, alors, tout ça, mis à bout, ça ne fait pas grand-chose. Mais on ne fait pas une armée nouvelle de la taille de ce qui serait nécessaire pour s'en prendre à la Russie en 3 mois. Même si on a 800 milliards sur la table, il faut une décennie pour faire une industrie d'armement.
Moins, oui.
Voilà. Ouais, et donc, tout ça est totalement délirant. Alors, moi, je ne me prends pas au délire. Je dis, nos dirigeants actuels, M. Macron, Rothschild, est délirant. Il fait ça parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Et en fait, il est incapable de tenir aucun des engagements qu'il pourrait prendre devant les caméras de télévision. Même chose pour M. Starmer, même chose pour M. Merz, etc. Ils sont tous pareils, mais ils sont perdus, ils sont orphelins du papa états-unien. C'est ça qui...
C'est voilà. Ça.
Et ils n'ont plus de père. Ils n'ont plus de père et ils sont perdus.
Mais dans l'opposition, il n'y en a pas qui peuvent ramener...
Et l'opposition est désespérante parce qu'on peut chercher dans les groupes parlementaires actuellement rassemblés à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez entendu un leader de ces différents groupes parlementaires, de la droite à la gauche, dire que c'était une folie ? Moi, j'ai entendu personne. C'est-à-dire, il n'y a pas dans la représentation parlementaire de force politique que je considérerais comme une force de gauche, disant la priorité, c'est la santé du peuple français. C'est pas régler les comptes avec la Russie ou avec l'Ukraine. Mais ça, apparemment, c'est passé à côté. Et on a une opposition politique qui n'existe pas, qui n'est pas une opposition politique. C'est tout. Alors, elle en souffrira peut-être dans les élections à venir, mais aujourd'hui, on se ressent cruellement, moi je le ressens très très cruellement, l'absence d'une vraie opposition politique solide, et j'allais dire, qui aurait gardé du gaullisme ses meilleurs côtés, c'est-à-dire la défense de l'indépendance nationale, le respect de la souveraineté par les autres et tout, et le fait de dire « on ne me dicte pas mes ordres, je suis souverain ». Je veux citer personne et je veux pas polémiquer là-dessus. Je n'entends personne à l'Assemblée dire, mais est-ce qu'on est encore un peuple souverain ? Alors, la réponse, elle est simple. Bon, on est beaucoup moins parce que d'abord, on est dans l'OTAN et là, c'est les États-Unis qui gouvernent. Deuxièmement, on est dans l'Union européenne et dans l'Union européenne, c'est l'Allemagne qui gouverne.
Hein. Oui.
Bon, donc, effectivement, on a beaucoup perdu de souveraineté. Donc, ça amène à reposer des questions politiques fondamentales auxquelles le peuple français a répondu en 2005. J'insiste là-dessus. En 2005, le peuple français a été consulté sur la Constitution européenne qui, en fait, mettait en place cette soumission totale aux États-Unis et à leur monnaie, etc. Qu'est-ce qu'il a répondu, le peuple français ? Il a répondu non. N'oublions jamais ça. Il a répondu non. C'est-à-dire, il voyait bien, alors maintenant c'est encore plus flagrant, il voyait bien qu'on allait justement vers une disparition de la souveraineté nationale. Bon, ben maintenant c'est encore beaucoup plus flagrant. Mais ce peuple français, le président qui est arrivé au pouvoir tout de suite après, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, le premier président prisonnier condamné par les tribunaux de la République, c'est pas très fréquent quand même, un président de la République qui est condamné par les tribunaux. Ça arrive même très très rarement. C'est même déshonorant. En tant que citoyen français, j'imagine que vous allez dans un pays en vacances, je sais pas, vous allez vous promener en Italie ou en Espagne, et vous dire « Ah, eux, ils élisent des présidents, c'est des voyous ». Bon, moi, ça me gêne, ça. J'ai pas envie de vivre cette situation-là.
Avec le train.
Oui, même avec le... Voilà. J'ai pas envie de vivre cette statut-là. Alors, il faut savoir, parce que bon, pour préparer cette émission, on lit beaucoup la presse internationale, que plus aucun pays en dehors du petit cénacle européen ne prend la France au sérieux. Hein. C'est l'évidence. Hein. Mais moi, on a été élevé dans un pays qui était écouté quand même, parce qu'il disait des choses, il avait une culture, il l'a encore, mais il est dirigé par des gens qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche, qui sont des petits soldats. Alors Macron, c'est un petit soldat de la banque Rothschild et des fonds de placement, on le sait. D'autres étaient... enfin, peu importe. Hein. Et Sarkozy, c'était un outil des États-Unis, puisque par sa famille, il était allié à un des dirigeants de la CIA. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus, n'épiloguons pas. Simplement, je dis, citoyens, citoyennes français qui écoutez Comme à guerre et Radio Galère, pensez bien que vous avez devant vous l'avenir de vous et de vos enfants pour savoir si vous allez vivre dans une république bananière ou si vous allez vivre dans la république française avec ses traditions et ses acquis. C'est ça le jeu. Alors, j'appelle pas, ne cassez pas tout, ne faites pas de grosses mains, mais c'est ça, réfléchissez bien. Vous avez déjà réfléchi en 2005 contre tous les médias. Tous les médias étaient contre vous, tous les médias étaient contre le vote populaire. Personne ne s'attendait à ce que les Français, à 53 ou 54%, votent contre la Constitution européenne. Ils l'ont fait. Et bien maintenant, il faut recommencer. C'était ça la bonne position. Ouais. Il faut la faire passer à nouveau. Parce que c'est encore plus grave maintenant, parce que le pays est dans une situation beaucoup plus difficile qu'il n'était en 2005. Les finances sont dans un état déjà catastrophique, même sans le budget militaire augmenté. Lequel d'ailleurs continue à augmenter, et donc on va prendre ailleurs, vous imaginez bien. Voilà, voilà tout ça qu'il faut dire pour la situation française.
Ouais, et donc, absolument, la France doit tenir son rang.
Mais bien sûr, exactement, exactement. Ouais. Et le père d'Habib qui un jour est parti de son village en Syrie pour dire « je pars dans les forces françaises libres, je vais libérer la France », comme l'ont fait des papas sénégalais, des papas ivoiriens, etc. Ouais, il se dit, mais il peut, et Habib est en situation de se dire, mais mon père s'est fait rouler dans la farine, on s'est moqué d'eux. Et ils ont libéré. Enfin, regardez, si vous, il y a beaucoup de vidéos, on a des archives. Comment, quelles étaient les troupes qui ont libéré Marseille? Regardez-les. Hein. Bon, c'était pas. Alors, il y avait quelques Français, il n'y en avait pas beaucoup. Des Français de souche, comme on dit ailleurs. Mais voilà, c'était ça. N'oublions pas ça. Alors, les colonies ont sauvé la République. C'est ça qu'il faut avoir en tête.
Notre-Dame a libéré, été, bien Notre-Dame sûr. De Marseille a bien, été libérée par les archers. Enfin,
voilà. Alors, où on en est depuis donc, cette journée de bascule à l'ONU? C'est-à-dire, tout d'un coup, à la surprise aussi, surtout des Anglais et des Français, les États-Unis disent, maintenant, on travaille avec la Russie. Et ça va déboucher sur des négociations qui ont lieu. Et là, je reviens sur ce qui a été évoqué déjà. Il ne s'agit pas de négocier un armistice, un cessez-le-feu en Ukraine. Il s'agit de normaliser les relations entre les deux pays, c'est-à-dire supprimer les sanctions, puisqu'on est d'accord sur un certain nombre de points, il n'y a plus de sanctions, il ne faut pas que les États-Unis passent leur temps à sanctionner la Russie, qu'ils interdisent que M. Lavrov aille ici ou là, que tel banquier russe ne puisse pas faire des affaires en Europe, tout ça, ça doit cesser. Il faut rétablir des relations diplomatiques normales avec du personnel diplomatique à Washington et à Moscou qui fait son travail de diplomate.
Est-ce que Bernard, ils peuvent utiliser l'argent gelé
non,
de
c'est
la Russie?
C'est illégal.
J'ai entendu.
Ce qui est annoncé, c'est que par exemple, des fonds de banques russes qui étaient déposés dans des établissements de crédit français, les intérêts, pour l'instant, il ne s'agit que des intérêts. Les intérêts de ces fonds sont gelés, c'est-à-dire que la France met ça dans son budget. C'est un vol à main même pas armée, c'est un vol. Bon. Okay, et donc, alors, imaginons-nous, si j'insiste là-dessus, pour les pays étrangers, il y a du monde maintenant dans le tiers-monde, dans les 8 milliards d'hommes et tout, qui regardent Macron et l'équipe à Macron faire ça. Mais pour qui on passe? Pour des malandrins? On prend dans les caisses de l'argent qui n'est pas à vous et on trouve ça drôle et tout. Mais on est gouverné par des escrocs. Hein. Celui qui dit la France est grande... Non, la France est en train de se ridiculiser. Elle l'était déjà de plus en plus. Alors, heureusement, il y a des gens qui en prennent conscience. Il est très intéressant à ce niveau-là de voir, par exemple, les votes à l'Assemblée générale de l'ONU, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, même maintenant du Tchad et même du Sénégal.
Qui disent,
non, ce que dit la France, ça ne vaut plus rien. Hein, on n'a pas confiance en eux. Donc, ça, c'est très, très intéressant comme évolution. Et puis le principal, c'est de dire, il y a des discussions entre les États-Unis et la Russie des discussions qui vont être longues. Il s'agit de normaliser des relations qui ont été saccagées, piétinées pendant des années systématiquement et tout. Et il s'agit donc pour la Russie de répondre à la situation militaire et de répondre aux évolutions de la politique de Trump. Parce que tout le monde a vu, je pense qu'il y a des milliards de gens qui ont vu la fameuse séquence où donc l'altercation, j'allais dire, entre Trump et Zelensky à la face du monde entier, où Zelensky s'est ridiculisé, n'a pas été à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un chef d'État, c'est l'évidence, et où il s'est aperçu qu'il avait gaffé, puisque dès le lendemain, il s'est aperçu qu'il faudrait mieux qu'il présente des excuses et tout. Le résultat, de toute façon, c'est que Trump étant ce qu'il est, il a pris ça comme une paire de claques en public. Quand on est président des États-Unis, une paire de claques en public devant des millions de téléspectateurs, ça n'est pas facile à digérer. Et je pense qu'il n'a pas digéré du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Et donc maintenant, il dit, puisque tu l'as pris comme ça, je vais te faire comprendre ce que je peux faire ou je peux ne plus faire. Et donc la décision est prise et elle s'applique, c'est-à-dire de couper tous les envois d'argent, de couper toute l'aide militaire. Alors l'aide militaire, c'était à la fois du matériel, des munitions et tout, et c'était l'observation. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tous les satellites et tous les avions AWACS de reconnaissance des États-Unis étaient là sur le sol, au-dessus du sol ukrainien, pour dire à l'armée ukrainienne, qui était favorisée par les États-Unis, attention, il y a un bombardier russe qui vient de décoller de tel endroit, il va dans telle direction. Ouais. Et à ce moment-là, on préparait la défense anti-aérienne. Bon, c'était ça. Donc le jeu militaire entre la Russie et l'armée ukrainienne n'est pas un jeu entre l'armée ukrainienne et la Russie. C'est clair aujourd'hui, c'était un jeu entre les États-Unis via l'armée ukrainienne contre la Russie, avec tous les moyens des États-Unis au niveau militaire.
C'est
bien clair. Or, il se trouve, ça c'est une leçon aussi, et à mon avis, la leçon, elle est partagée à Washington, il se trouve que malgré ça, ces milliards déversés, ces documents fournis, ces espionnages, des communications, ces indications de tir, etc., la Russie n'a pas été battue. Et donc c'est ça la situation à laquelle Trump fait face. C'est-à-dire, j'arrive, je suis un président, je dis que tous les démocrates ont tout raté, dont Biden, alors ça c'est le jeu facile, il y a les bons et les méchants, donc les démocrates ont tout raté. Les démocrates ont raté l'Afghanistan. Hein. On se souvient donc de la capitulation ridicule du mois d'août 2022. Les démocrates ont raté tout ce qu'ils ont voulu rater. Et donc, c'est facile quand on est républicain de dire, regardez, je voulais pas aller là. Je veux pas recommencer. Et surtout, je veux pas recommencer parce que je sais, et mes militaires me le disent, que je suis pas en capacité de gagner. Je ne peux pas écraser l'armée russe. Alors, il aurait pu se dire ça, enfin, ils ont pu se dire ça à Washington en 2022, 2023 et tout, car ils ne savaient pas que la Russie allait résister comme elle a résisté, malgré tous les énormes moyens qu'il y avait. Maintenant, il est très très clair, de plus en plus clair, d'un jour sur l'autre, que la Russie non seulement est en capacité de résister, mais qu'elle est en capacité de gagner. Ça, on va voir ce qui se passe.
Mais... comme tous les drones, là, aujourd'hui, qu'ils ont été bloqués.
Oui, tout à fait.
337 drones.
Et oui, parce que dans la mesure où il n'y a plus la couverture aérienne des États-Unis, il ne se passe plus rien. Hein. Donc, je pense que la présidence ukrainienne...
Sur Moscou.
Donc, ils savent très très bien maintenant qu'ils sont très affaiblis. Et c'est pour ça qu'il y a urgence. Alors, il faut bien se situer dans le discours de paix, je mets des guillemets, de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a urgence parce qu'il sait que plus le cessez-le-feu tarde... plus la Russie gagne du terrain et plus l'armée d'Ukraine s'effondre. Elle est en train de s'effondrer à Koursk. Alors Koursk, qu'est-ce que c'était? C'était une tentative, il faut l'expliquer, dans la stratégie de l'Ukraine, mais donc la stratégie de l'OTAN, c'est-à-dire la Russie s'est installée sur le sol de l'Ukraine, avec l'accord des populations, hein, je veux parler du Donbass, etc., tout ça, c'est, ça est clair, et l'idée c'était de dire... on va prendre une portion du territoire russe, donc la région de Koursk, et à un moment donné, on échangera, c'est-à-dire on vous rendra votre morceau de Russie, vous nous rendrez le Donbass. Ce qui évidemment ne se passera jamais. C'était ça l'idée. Mais l'opération de Koursk qui est en train de s'achever peut-être aujourd'hui ou s'achèvera demain, Parce que c'est une déroute totale, dans la mesure où il n'y a plus les couvertures aériennes des États-Unis, c'est une déroute totale, et dans la mesure aussi, et je le dis parce que ça mérite de l'être, que la Russie a monté une opération qui fera date, à mon avis, dans l'histoire militaire, sur laquelle je vais m'arrêter 2 secondes. Cette opération, alors vous savez que l'Ukraine a décidé que le gaz russe qui allait vers les pays d'Europe centrale ou plus à l'ouest ne devait plus traverser son territoire. Ça vous avez noté, hein, ils ont eu une chance jusqu'au 1er janvier 2025, ils n'ont pas voulu la prendre, bien que ça leur ait rapporté pas mal d'argent, les droits de transit. Bon, ils ont dit non. Il se trouve donc qu'il y a aujourd'hui des gazoducs vides. Alors un gazoduc, c'est pas un petit tuyau. Un gazoduc, ça fait un diamètre d'1m40 à 1m50, à peu près. Bon, ça a l'air de rien. Ce qu'ont fait les Russes, je l'explique. Ils ont donc ça, l'arrivée du gaz était coupée. Ils ont purgé quand même, ils ont fait envoyer un grand coup d'oxygène dedans pour bien purger, pour qu'on puisse rentrer dedans sans risquer de s'asphyxier. Ils ont mis en place tout un système de nourriture, des toilettes, etc., pour que des centaines de soldats russes puissent circuler sur des kilomètres à 1m50 à pied. Et au bout de 12 kilomètres, ces soldats russes sont ressortis, alors pas quelques-uns, 5 ou 600 d'après les sites, donc des forces spéciales. Hein, ils sont ressortis derrière les troupes ukrainiennes qui ont été prises de panique. Alors c'est ça qui s'est passé. Et ça, c'est un... Oui, ça restera dans les annales des écoles de guerre. Hein. Voilà. Ça ne s'est jamais passé. Hein. Et donc, c'est une opération qui a dû être montée, qui a mis 3-4 semaines au moins pour être montée à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous imaginez, dans le noir, alors on a vu quelques photos, ces soldats russes un peu couchés, enfin 1m50, ouais, hein. Voilà, c'est des grands quand même, et avec tout ce qu'il fallait à intervalles réguliers, je dis, des toilettes, de la nourriture, des systèmes de communication et tout, et débouchant dans le dos des forces ukrainiennes, qui ont été prises de panique, et la panique s'installe, et le commandement ukrainien est totalement débordé. Donc je pense que c'est une question de 2 jours, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, on pourra considérer que l'opération course qui est terminée. Et donc que l'armée ukrainienne a regagné l'Ukraine. Et ce qui va se passer très probablement, c'est qu'elle va être poursuivie par l'armée russe qui va rentrer beaucoup plus profondément dans le sol ukrainien. Ça, c'est la suite de la guerre. Mais ça, cette guerre-là, maintenant, elle est menée par la Russie. Là, les États-Unis savent qu'ils l'ont perdue. Et c'est pour ça qu'ils aimeraient que ça s'arrête très, très vite. Parce que si ça s'arrêtait dans 8 jours, l'hypothèse que je ne partage pas du tout, certainement pas, ça voudrait dire qu'on les arrête en route. À mon avis, ce n'est pas ça qui se passera. La Russie a dit, vous m'avez traité comme vous m'avez traité. Ça fait 3-4 ans que les États-Unis déversent des fonds et envoient des militaires, envoient du matériel et tout. Maintenant, je continue, ça vous apprendra. Je rappelle pourquoi ça vous apprend. Je rappelle que dès le début de l'opération militaire spéciale, donc dans les premières semaines de février, début mars 22, la Russie était prête à signer un accord, ça s'est passé à Ankara, la Réunion, un accord avec l'Ukraine, qui était simplement un accord respecter les minorités russophones. C'était tout. Hein. Alors ils n'ont pas voulu ça. Oui. Ils n'ont pas voulu ça. Maintenant ils ont perdu et ils perdent beaucoup, beaucoup plus. Mais je veux dire, tant pis pour vous. Hein. Vous n'avez pas voulu, enfin vous. Alors à l'époque on dit que c'est Johnson qui a dit les États-Unis et tout. Il fallait continuer. Ils ont continué, ils ont perdu. Alors Trump, il est un peu embêté, mais on se met à sa place. Il est président de... Il se croit le président de la première puissance mondiale, ce qui est encore vrai économiquement, mais pas sur tous les aspects. Et arriver comme ça pour un début de mandat, ça fait 2 mois qu'il a, pour dire, ah ben, je capitule devant la Russie, il ne peut pas le dire. Donc c'est pour ça qu'il dit, vite, vite, le cessez-le-feu, vite, vite, le cessez-le-feu. Parce qu'il voit bien que ça va très, très mal se terminer pour les intérêts de l'Occident. Derrière ça, il y a évidemment... Qu'est-ce qui restera de l'Ukraine? On ne sait pas. Et qui s'appropriera ce qu'il y a sur le sol ukrainien, des usines, qui étaient encore de grande qualité, hein, et qui ne restera pas, et à qui appartiennent toutes ces installations. Alors, je ne développe pas là-dessus, parce que demain soir, pour l'émission mensuelle, je ferai pour les auditeurs un bilan de l'histoire de l'Ukraine depuis l'indépendance, donc depuis la chute de l'URSS, pour bien expliquer que tout ce qui s'est passé depuis 3 ans avait ses racines, même avant. Parce qu'en fait, la dissidence ukrainienne, le fait que l'Ukraine ait toujours posé problème à la Russie, C'est ça la vérité. Elle l'a posée dès la guerre de 14, dès la guerre de 40, 41 et tout. L'Ukraine a toujours été ambiguë puisqu'en fait elle tendait toujours, au moins une partie des Ukrainiens, à être du côté des anti-russes. Y compris du côté des nazis, je le précise. C'est, ça, ouais. c'est pas on dit il y a des nazis en Ukraine. Oui, mais c'est des nazis qui viennent de loin, qui l'ont été, qui l'étaient en 40, leur grand-père l'était en 18, 19, tout ça. Enfin, ils n'étaient pas nazis, mais ils étaient anti-russes. Hein. Bon, donc ça, je brosserai ce tableau-là séparément demain soir, à 20h, pour bien remettre tout ça, en mémoire. Donc, changement important dans les rapports de force internationaux et surtout, alliance de fait, la Russie est contente que les États-Unis discutent avec eux, mais ils ne se font pas d'illusions sur les personnages qu'ils ont en face d'eux. Le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères Rubio, est qualifié par le ministère des Affaires étrangères de serpent. Bon, donc, non, on se parle, on est entre diplomates, on se parle, on a des choses concrètes à discuter, c'est oui, c'est non, c'est pourquoi, c'est comment, ça oui, mais il n'y a pas d'estime, on comprend mal ce que c'est qu'un diplomate. Le diplomate, c'est pas monsieur qui tout d'un coup embrasse son voisin de notre pays sur la bouche, c'est pas du tout comme ça, il y a des intérêts, on discute calmement, on dit voilà, on pose ses intérêts, on pose ses objectifs, on dit voilà quelles limites on pose, voilà sur le quoi on pourrait trouver un compromis, et c'est ça. Et que l'autre soit n'importe quoi, un serpent ou un milliardaire, que j'ajoute quand même, parce que ça fait partie de la façon dont Trump travaille, c'est que Trump a d'une part une vraie administration diplomatique, donc avec Rubio à sa tête, mais il a aussi des envoyés spéciaux qui font une part du boulot, et pas forcément la même. Et c'est tous ces envoyés spéciaux, que ce soit Witkoff pour le Moyen-Orient ou Kellogg pour l'Ukraine, sont tous des milliardaires, tous des milliardaires. C'est-à-dire qu'en fait, Trump affiche ce qu'il est, un milliardaire rapace qui veut enrichir lui et son pays au passage, et ses copains. Hein. Et donc, les vraies discussions, ce n'est pas les diplomates états-uniens qui les mènent. Il y en aura, bien entendu, il y aura peut-être il faudra qu'il y ait des traités, des accords et tout. Mais les discussions, c'est entre milliardaires. Non, soit tu le prends, bon, soit je te le laisse, soit je te le donne. Voilà, on est là, on est sur une table de jeu. Hein. C'est ça le monde géré par les milliardaires. C'est ça le monde de Trump. Hein. Ne nous faisons pas d'illusions sur le personnage.
Juste une parenthèse, tu as parlé de Kellogg, c'est les cornflakes ?
Je ne sais pas s'il est dans les cornflakes, mais il s'appelle Kellogg. C'est vrai que je n'ai pas vérifié. Hein. Mais chaque fois qu'il a un envoyé spécial, voilà, c'est un milliardaire, hein, de plus, il entraîne partout. Hein. Et donc, la vraie confiance de Trump, elle ne va pas à ces diplomates qui sont là pour faire le travail diplomatique classique, elle va à ces personnages-là qui vont discuter dans des endroits feutrés où il n'y a pas de témoins. Toi, tu prends ça, moi, je prends ça. C'est ça, la diplomatie mondiale, c'est comme ça aujourd'hui parce que les milliardaires le veulent. Alors, après, on peut rêver, je rêve devant vous deux secondes, on peut rêver à un monde où ce ne seraient pas les milliardaires qui gouverneraient le monde. Mais on est dans cette période-là où les milliardaires veulent gouverner tout propre.
J'ai l'impression, en Amérique, ça a toujours été comme
oui,
ça,
voilà,
avec
ça
tous les
été
pouvoirs
comme...
politiques.
On en est là. Donc, je vous ai brossé un petit tableau de la situation ukrainienne. Et puis, je voudrais vous quand même... Bon, je regarde l'heure passée. Oui.
Excuse-moi, je ne sais pas où tu vas aller, là. Mais tu ne devais pas parler de Erdogan et de la Turquie par
rapport
à la Syrie.
Voilà, pour en finir sur la Syrie. Okay. Tu as tout à fait raison de me le rappeler. Parce que, en fait, la bande de terroristes égorgeurs qui constitue ce fameux gouvernement intérimaire à Damas... Je signale que, d'une part, ils ne gouvernent qu'une petite partie du territoire, celle où ils font des massacres. Hein, ils ne gouvernent pas la partie est-sud-est du Golan, où c'est les Israéliens qui sont là. Apparemment, d'ailleurs, on a maintenant des communiqués par lesquels ils se mettent à se parler. C'est-à-dire les terroristes islamistes ont de bons rapports avec les sionistes. Quelle surprise! Non, en fait, ce n'est pas une surprise, puisqu'on l'a su depuis qu'il y a des terroristes islamistes. À aucun moment, j'insiste pour les... D'où nos éditeurs qui soutiennent la cause palestinienne, à aucun moment, aucun terroriste islamiste n'a soutenu les Palestiniens.
Exact.
Aucun moment.
Aucun.
Voilà. Bon, que les choses soient claires.
Et jusqu'à présent.
Voilà. Oh, puis je ne vois pas que ça pourrait changer. Voilà. C'est ça le
et
passé.
Il y a eu des bombardements hein, sur Damas et aujourd'hui.
Voilà. Donc, soyons pas naïfs de ce point de vue-là. Alors, revenons sur Erdogan. toute cette bande de terroristes égorgeurs. Ouais. Et donc, depuis des années, alors elle a passé sous différentes casquettes, elle s'est appelée Al-Qaïda, elle s'est appelée HTS, etc. Bon, peu importe. Elles étaient logées, hébergées, nourries, financées, mais surtout nourries, équipées militairement, entraînées, soignées par l'armée turque. Bon, que les choses soient claires. Et pourquoi c'était facile ? Parce que c'était à la frontière de la Turquie, donc il y avait libre passage, on pouvait aller et venir, et une nouvelle recrue terroriste, puisqu'il y en a eu des nouvelles recrues terroristes, il arrivait en Turquie, avec son passeport comme tout le monde, et le lendemain, il arrivait au bon endroit, et il devenait terroriste. On a connu le cas d'un certain nombre de citoyens français qui étaient dans ce cas-là. Tout le monde passait par là, donc c'était le sas pour le terrorisme. C'est ça, monsieur Erdogan, dont vous êtes, vous, monsieur responsable. Hein, vous les avez nourris, choisis, hébergés, formés militairement, équipés, etc. Et c'est eux que vous avez lâchés. Alors, vous les avez lâchés d'abord sur Alep. Pourquoi les lâcher sur Alep ? Parce que, d'une part, c'est Alep, la capitale. C'était la capitale économique et industrielle de la Syrie. Mmh. Et que vous en avez profité pour piller l'industrie syrienne. Combien d'usines vous avez volées, monsieur Erdogan ? L'usine syrienne avec le matériel et tout. Ça, vous l'avez fait. Heureusement, l'armée syrienne a réussi à récupérer Alep, mais les terroristes sont à nouveau repliés sur le secteur d'Idleb dont on parlait. Bon. Et à un moment donné, il s'est avéré que les choses n'avançaient pas, que le gouvernement syrien, malgré toutes les difficultés qu'il avait à gérer la situation, c'est-à-dire, je rappelle, un embargo féroce, des bombardements quotidiens d'Israël, des interventions militaires, une partie de son territoire qui était occupée par des troupes étrangères, etc., y compris américaines, y compris françaises. Je rappelle qu'il y a une coalition soi-disant anti-Al-Qaïda, dont la France était membre, qui occupait une partie du territoire syrien. Ça, c'était vrai aussi.
Bon. Au nord de la Syrie.
Voilà, au nord-est de la Syrie. Donc, monsieur Erdogan, vous avez les mains très, très sales sur le dossier syrien. Alors, vous êtes peut-être silencieux ces derniers jours. Vous observez, vous ne dites pas grand-chose. Vous avez intérêt à ne pas parler trop fort, parce que c'est vous, au fait, qui les avez lâchés. Alors, vous ne les avez pas lâchés tout seuls. Donc, c'était au mois de décembre. Je rappelle qu'au mois de décembre, Biden et son équipe étaient encore au pouvoir. Et je considère, vu d'aujourd'hui et vu la rétrospective qu'on peut faire des événements, que ça a été le dernier coup tordu de l'équipe Biden, ça a été de dire « Allez, on lâche les fous sur la Syrie, parce que comme ça, au moins, ça fera évoluer les affaires, ça fera avancer les intérêts des sionistes et nos intérêts. » Et c'est pour ça qu'ils l'ont déclenché, parce que la date du début décembre, elle n'avait pas de sens autant. C'était l'espèce de chant du cygne de la politique de fou de Biden.
Il y avait que ça. Je ne sais pas si... Baptiste, tu vas en parler d'Abdallah Öcalan, le fameux prisonnier kurde.
Oui, kurde, alors. Qui a été, je pense. Alors, il avait déjà été retourné, parce qu'en fait, le PKK, qui est un des partis kurdes, avait donc un leader historique qui s'appelait Öcalan, qui est en prison depuis, je ne sais pas, 20 ans maintenant.
Plus de 20 ans, oui.
Qui a été rattrapé, qui s'était réfugié en Syrie, où on ne lui faisait
d'abord,
pas de mal.
Il était entraîné et tout par Hafez al-Assad, oui.
Voilà, c'est tout vrai. À fait. Et donc, après, une fois en prison, il a changé de position, et en fait, maintenant, il est entre les mains des États-Unis et de la Turquie. Bon, donc, il n'y a pas. Alors, ça ne veut pas dire que... Alors, je fais attention, parce qu'il y a des Kurdes, peut-être, qui nous écoutent, ou des gens qui trouvent la cause kurde sympathique. Les Kurdes, c'est toujours très, très compliqué. Ils ne sont jamais unifiés. Jamais unifiés. Il y a toujours des pros et des anti. Et ils ne sont pas sur les mêmes positions selon qu'ils vivent en Iran, en Irak, en Syrie ou en Turquie. Donc, c'est assez compliqué. Enfin, personne ne peut dire on aimerait bien
C'est compliqué. Hein,
oui. Si un jour les Kurdes arrivaient à s'unifier pour exiger un territoire, eux, ils pourraient le faire. Hein. Ouais. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Bon. Donc, laissons ça de côté. Donc, je voulais simplement insister en disant monsieur Erdogan, et donc ça a été le dernier coup tordu de l'équipe Biden, a dit maintenant ça y est, on y va sur la Syrie. Ça fera avancer les affaires. Donc on se sépare, on mettra par terre, ce qui a marché, le seul régime et le seul pays qui n'est pas sioniste et qui ne soutient pas les sionistes dans le monde arabe.
Et qui n'a jamais reconnu.
Voilà. Et c'est ça la réalité. C'est ça qui est vrai depuis 1948. Je rappelle qu'à l'Assemblée générale de l'ONU de 1947, la Syrie, qui est indépendante à l'époque, vote contre le partage du territoire. Et en 1948, elle ne reconnaît pas l'État d'Israël. Il n'y a pas beaucoup. Il y a même zéro régime arabe qui ont fait pareil. Donc ça, elle a été punie, et les Syriens avec ont été punis de cette position-là. Bon, c'est ça qu'il faut bien, bien clarifier. Voilà pour Erdogan. Hein, Monsieur Erdogan, taisez-vous, rasez les murs. D'ailleurs, vous savez qu'en plus, Monsieur Erdogan, vous avez été victime... Vous avez été victime
d'un coup, d'état.
Un coup d'État qui a raté, organisé par les États-Unis, qui vous trouve peut-être pas très fiable. Bon. Je vous signale, M. Erdogan, je lui parle comme si on se connaissait depuis longtemps, que les positions de Trump sur l'OTAN sont de plus en plus claires. C'est-à-dire, Trump dit l'OTAN, finalement, c'est moi qui fais tout. Et il est vrai que s'il fait pas, l'OTAN ne suit pas. Hein, et on le voit sur la question ukrainienne. Mais au fond, pour la Turquie, c'est la même chose. Si... Trump dit à la Turquie, mais moi, j'ai pas besoin de vous dans l'OTAN, vous me servez à rien. Hein, que devient l'armée turque, qui est énorme en nombre et tout? Que deviennent les bases militaires américaines en Turquie? On ne sait pas. Hein. Donc, monsieur Erdogan doit se poser des questions. Posez-les-vous. Mais vous avez beaucoup, beaucoup de sang sur les mains. Pas que du sang kurde, vous avez du sang syrien. Hein. Vous avez du sang en Libye, vous avez du sang un peu partout. Donc vous êtes dans une position très très inconfortable. Vous avez beaucoup beaucoup servi.
Surtout le parti politique qu'il dirige, l'AKP. C'est des islamistes.
Oui, c'est un parti islamiste. C'est un parti islamiste.
Les frères musulmans.
Voilà. Alors il y a aussi, heureusement, dans cette république qu'est la Turquie, d'autres forces politiques qui ne sont pas sur ces lignes-là. Donc je pense que là aussi, il y aura des évolutions possibles. Et je voulais rappeler, dernière chose, que la province qui servait de sas à l'arrivée des terroristes islamistes sur le sol syrien, donc à Idlib, est une province arabe. Est une province arabe que la France a donnée, pour être gentille, à M. Mustafa Kemal en 1938. Bon.
Et au fond, Skandaroun.
Voilà, le Sanjak d'Alexandrette. On y parle encore aujourd'hui arabe.
Jusqu'à présent.
C'est une province arabe. Bon, donc ça, c'est pour la petite histoire. Bien, alors... Vas-y.
Je ne sais pas si tu comptes en parler d'ici la fin de l'émission. L'attaque terroriste qui a eu lieu au consulat de Russie.
Oui, alors disons-le, puisque voilà, tu m'as entendu. Si, là-dessus. Oui. Alors, ça fait partie de la façon, je n'y reviendrai plus longuement demain sur l'histoire de l'Ukraine, la façon dont on a présenté cette Russie agressive dont on a donc fait de Zelensky et de son équipe, ou de l'équipe précédente de Porochenko qui ne valait pas plus cher, des braves gens. Des braves gens soumis à la terreur soviétique. C'est presque ça. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de ça à peu près un mois, je n'ai plus la date en tête, deux scientifiques, scientifiques du CNRS de Marseille, sont venus jeter des bombes d'azote liquide sur le consulat de Russie à Marseille. C'est un explosif dangereux. Bon, ils ont jeté dans le jardin, ils ont été filmés d'ailleurs par le système de vidéosurveillance et tout. On voit arriver un monsieur en jean avec un bonnet qui jette un truc par-dessus. Alors, c'est gros comme une bouteille d'un litre, hein, pas plus que ça. Mais c'est de l'azote liquide et on peut le mélanger avec des poisons. Donc, c'est très dangereux si ça touche quelqu'un. Ouais. Il n'est rien arrivé.
C'était il y a 15 jours. Le 26 jours, c'est ça.
Et ces messieurs... ont été arrêtés, parce qu'ils étaient relativement faciles à identifier. Ils ont été arrêtés, ils ont été jugés par un tribunal français. Et donc, on a eu, c'est très intéressant, donc une prise de position, une analyse de la situation par la porte-parole du ministre des Affaires étrangères russe, Mme Maria Zakharova, qui s'est étonnée de la très faible peine, parce que c'était l'intention de nuire, et même, pourquoi pas, l'intention de tuer ou de blesser. C'était pas simplement on manifeste, on n'est pas content. Non, c'était une intention terroriste, carrément, de deux citoyens français, et pas des scientifiques avec un bon niveau de formation, au moins dans leur domaine. Alors, en niveau de formation politique, on peut en douter, mais voilà, on n'avait pas affaire à des voyous qu'on aurait drogués pour leur dire faites ça. Bon, il se trouve que la peine a été extrêmement légère et que la diplomatie russe s'en offusque. C'est trop facile d'avoir juste, je crois, une interdiction de séjour de quelques... Je ne sais pas quel est la
sanction. Non, une assignation à résidence.
Voilà, assignation à résidence. C'est-à-dire rien du tout. Quoi. Vous pouvez n'aller pas trop loin, vous circulez. Alors, ils ont peut-être un bracelet électronique, je ne sais pas. Hein, voilà, c'est tout. Hein. Et pour quelques temps, plus quelques semaines. Hein. Donc, plus que ça, 6 mois.
Un peu plus, oui. Quelques mois, je crois.
Bon, voilà. Donc... affaire classée, c'est-à-dire qu'au fond, pour le gouvernement et le ministre de la Justice français, je rappelle, c'est monsieur Darmanin, le ministre de la Justice, la consigne a dû arriver en disant « Allez, on laisse passer ça, on n'en parle pas trop, c'est gentil. » Bon, ça a été relevé par la Russie, et tant mieux. Et j'en arrive un peu aux affaires françaises, très rapidement, mais ça mérite de l'être. Parce que pendant que toutes ces affaires-là bougent, il y a des gens qui ne capitulent pas. Et je veux parler des Kanaks. Les Kanaks se sont réunis courant février, et ils ont rappelé, et je suis très étonné parce que leur ministre, celui qui devait les encadrer, s'appelle M. Valls, et il a été extrêmement silencieux. Or, il se trouve qu'ils ont rappelé qu'ils avaient droit à la souveraineté et qu'on allait y aller. Et ils disaient, alors, ils ont rassemblé beaucoup de soutiens internationaux. Ils n'ont pas perdu leur temps du tout. Et ils disent, nous serons souverains. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura plus de rapport avec la France. Nous serons simplement souverains, c'est-à-dire nous, on décidera de nos alliances, de nos moyens. Si effectivement, c'est déjà arrivé dans des cas de décolonisation, plutôt du côté des Britanniques, ils demandent un partenariat français pour la défense et tout, c'est bien possible. Mais ils disent, et c'est parfaitement clair, alors je détaillerai peut-être la semaine prochaine leur position, nous serons souverains à la fin de 2025. Il faut savoir quand même qu'ils ont l'ONU de leur côté. Et ça, c'est très, très important à se souvenir. Dernière chose sur laquelle... Enfin, je ne veux pas beaucoup m'intervenir sur Trump parce que le personnage a ses faiblesses. Et une faiblesse que je signalais à nos amis avant de commencer l'émission, c'est que des linguistes ont fait une analyse du lexique de M. Donald Trump. C'est-à-dire, c'est très, très facile statistiquement, vous compilez tous ces discours, vous enregistrez, et vous regardez quel est son vocabulaire, combien de mots il utilise, à quelle fréquence, et vous avez, au bout d'un certain nombre de semaines, il n'y a même pas besoin, si on peut le faire avec l'intelligence artificielle, ça va plus vite, vous avez, voilà le vocabulaire de M. Trump. Le vocabulaire de M. Trump est le vocabulaire moyen d'un enfant de 10 ans aux États-Unis. Bon. Voilà, mais c'est ça la vérité. Alors ne rêvons pas, hein, c'est simplement, il est là, ça lui a suffi pour s'enrichir, ça lui a suffi pour faire des coups tordus en bourse, ça lui a suffi pour menacer des gens, hein, ça, il n'y a pas besoin. Hein, quand il dit, on
Zelensky
le voit à la télévision...
Zelensky a été surpris.
Hein, Zelensky, oui, voilà. Quand il dit à Zelensky, tu n'as pas les cartes. C'est un vocabulaire de joueur de poker, c'est pas un vocabulaire de chef d'État. Bon, c'est tout. Mais il est comme ça, prenons-le comme ça, sachant qu'il a beaucoup de faiblesses et que dans beaucoup de choses qu'il annonce, ça ne tient pas debout. Je reviens très rapidement, je vais finir sur Panama, puisqu'on en avait déjà parlé. Il se trouve que...
Le Canada et le Panama.
Voilà, il se trouve que, donc je vous l'avais expliqué, il y avait... à deux extrémités du canal de Panama, deux installations portuaires pour le trafic des containers qui étaient tenues par une entreprise chinoise. Alors, je mets chinois entre guillemets, puisqu'elles étaient d'une entreprise de Hong Kong. Hong Kong, c'est pas tout à fait la Chine. Je rappelle qu'Hong Kong deviendra chinois en 2047. Hein, donc, c'est bientôt, c'est dans 22 ans. Hein,
ça passe.
Et que la boîte en question, qui s'appelle Hutchinson Wampu, est une boîte qui a le siège, je sais pas où, dans un paradis fiscal, mais où en fait, on est beaucoup plus britannique que chinois. C'est l'héritage de la colonisation d'avant. Bon, Hutchinson Wampu, voyant le vent tourner, a dit « Ah, mais moi, si on m'achète mes terminaux à un bon prix, je les vends. » Et à qui il les a vendus ? Il a vendu à un fonds de pension américain et à une entreprise qui s'appelle MSC, la première entreprise internationale de containers, MSC, qu'on connaît bien à Marseille. Et donc, MSC se retrouve prendre la place de Hutchinson Wampu. Alors, c'est un professionnel du transport par container, il n'y a pas de souci, le travail sera bien fait. Mais qu'est-ce que ça cache ? Ça veut dire qu'il n'y a plus aujourd'hui aucune entreprise aux États-Unis qui est capable de gérer proprement un terminal à container. Et c'est la vérité. Et il n'y a plus aujourd'hui aucune entreprise de transport maritime états-unienne capable de se situer sur le marché international. Il n'y en a plus. Ces entreprises ont toutes disparu, à telle enseigne que même la CMA en a racheté une il y a une dizaine d'années. Ça montre les États-Unis beaucoup plus nus que ce qui nous paraissent. Alors bien sûr, il y a Google, il y a Amazon, machin, chose et tout. Mais il n'y a plus de flotte commerciale, il n'y a plus de capacité de gérer des ports. Et regardez vous-même, la CMA est actionnaire d'un certain nombre de ports aux États-Unis, et pas que là, parce qu'elle a aussi du métier, en l'occurrence. Et ce qui m'amène à parler un petit peu de la CMA. Puisque la semaine dernière... Qui on a rencontré ? Alors, c'est pas M. Zelensky qui était dans le bureau ovale de M. Trump, c'était Rodolphe Saadé. Alors là, il n'y a pas eu d'esclandre, il n'y a pas eu de passage à la télévision, mais on est ressorti de cet entretien avec une annonce de la CMA disant qu'elle rachetait une flotte qui est sous pavillon, qui va passer sous pavillon aux États-Unis pour 25 milliards de dollars. Et donc, en fait, rendez-vous bien compte, la flotte que la CMA met sous pavillon américain est une flotte qui va servir sur les relations que je vais vous indiquer. Côte ouest, Japon. Côte ouest, Corée du Sud. Côte ouest, Guam. Côte ouest, Okinawa. C'est-à-dire, c'est la logistique de l'armée américaine qui est entre les mains de la CMA, siège à Marseille, France. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce qu'on mythifie cet énorme États-Unis qui annonce que si et ça, elle est très forte en tout. Elle n'est plus du tout très forte en tout. Et c'est pour ça que, à juste titre, M. Trump a dit qu'il faut que l'Amérique redevienne grande.
Ouais.
Car elle ne l'est plus. Quand on n'est pas capable d'avoir une flotte commerciale de taille internationale, quand on n'est pas capable de gérer des ports soi-même avec des entreprises compétentes, on n'est plus la première puissance mondiale. C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que M. Trump dit, ben, s'il faut un peu parler avec les Russes, et s'ils ne sont pas trop méchants avec nous, hein, ouais, eh ben, il faut parler. Voilà. C'est ça qui va se passer, et c'est ça qui s'annonce pour les semaines qui viennent, qui seront passionnantes à tous égards. Donc, alors, on vous invite à ne pas oublier la manifestation de soutien aux Syriens maltraités par les terroristes égorgeurs. Donc, c'est samedi à 14h.
Une épuration ethnique visée.
Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, c'est samedi à 14h devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et puis, on se retrouve demain soir pour un bref survol de l'histoire ukrainienne, mais qui est nécessaire dans ces temps troublés. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Roselyne. Merci Habib.
Merci à tout le monde.
C'est le tango des bouchers de la vie.